venir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
C'est dynamique.
Dynamique, allez.
Alors, il y a également, je le signale, le 3615 Libre Journal sur Minitel, moyennant la somme modique de 2,23 francs la minute, qui vous permet de trouver tous les renseignements sur le programme de cette émission et de quelques autres, puis toutes les informations sur la vie de la famille. Je signale également que ce matin est paru le dernier numéro du Libre Journal, le Libre Journal imprimé, car il y a un Libre Journal imprimé qui n'a rien à voir avec celui de la radio, sinon que c'est moi qui fais les deux. Enfin, ce Libre Journal-là du mercredi et le Libre Journal imprimé, et dans lequel on revient d'une façon un peu plus... assez complète, oui, sur une question qui est une question très débattue en ce moment, qui est la question de la multiconfessionnalité, ou en réalité la question de ce que Jean Madiran appelle dans le numéro de présent qui est paru hier et qui est donc dans les kiosques aujourd'hui, ce qu'il appelle la décivilisation que subit la France. Et vous savez que c'est un débat qui a été ouvert, qui a fait l'objet de communications diverses et variées lors de l'université d'été du Front National à Orange. Il y a eu une prise de position de M. Bompard, qui a donné lieu ensuite à une autre prise de position de M. Durbeck, qui a une prise de position de M. Farid Smaï, qui a été publiée par Présent. Et puis après, il y a eu une communication sur un sujet parallèle, mais quand même assez directement lié par le directeur du Front National de la Jeunesse. Et le Libre Journal publie ces textes qui, à ce jour, n'avaient pas été publiés. Enfin, publie de larges extraits de ces textes qui, à ce jour, n'avaient pas été publiés. Donc si la question vous intéresse, d'autant qu'elle a été évoquée très longuement également dimanche dernier à Baltar, dans les discours de messieurs Le Gallou, Serge Martinez et finalement Bruno Maigret, lors de la journée de l'Île-de-France du Mouvement National. Donc si ce sujet, et je reviendrai d'ailleurs sur ces questions dans le Libre Journal avec des communications, avec des extraits certainement des communications en question. Et si ça vous intéresse, et si vous voulez lire les textes du discours de Bompard, de la lettre au bureau politique de Durbeck et de la lettre également du directeur du Front National de la Jeunesse, vous pouvez commander le Libre Journal, 4 Place France Litz, 75 010 Paris, et vous envoyez 30 francs en timbre, et on vous envoie le journal illico presto.
Subito.
Subito, voilà. C'est un sujet qui est tout à fait intéressant et qui maintenant devient central, c'est-à-dire que maintenant tout le monde en parle. Le numéro de présent dont je viens de parler est d'ailleurs à cet égard intéressant, parce qu'il y a le papier de Jean Madiran intitulé « L'islam à l'ordre du jour », dans lequel il est question de cette décivilisation que subit la France, que d'autres appellent les incivilités des sauvageons. Il y a également un article totalement incroyable d'Alain Sanders. Enfin, le papier, lui, est pas incroyable, mais les faits sont incroyables. C'est que on parle d'un bricolage ethnique à la préfecture de police, le mot entre guillemets, enfin l'expression entre guillemets, qui a permis de recruter 278 agents locaux de médiation sociale, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Alors on réduit avec ALMS, des ALMS. Et sur ces 278 agents locaux, l'administration de la préfecture se vante d'avoir sélectionné 35% de jeunes issus de l'immigration. Alors comme le fait remarquer Sanders, 35% d'ALMS issus de l'immigration, c'est pas un bricolage ethnique, c'est bel et bien un choix racial, une sélection basée sur des critères raciaux, la mise en place d'une politique véritablement raciste. Et parce que la question se pose, comment est-ce qu'on sélectionne des jeunes issus de l'immigration? Comment ça se sélectionne, ça? Puisqu'ils sont français, ils sont nés en France, de par la loi du sol, ils sont français. Donc ça se sélectionne en fonction du nom, en fonction de la religion, en fonction de la couleur de peau, en fonction de quels critères? C'est quand même très 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 intéressant. Et de toute façon, ce sont des critères discriminants, même s'il s'agit, comme on dit maintenant, de discrimination positive, il s'agit bel et bien de discrimination. Parce que, de deux choses l'une, où on applique la politique des quotas, c'est-à-dire que chaque communauté représentant un certain quota de population, elle a le droit d'être représentée par le même quota dans toutes les administrations. Ça, c'était par exemple ce que faisait le Reich, ou ce qui s'est fait à un certain moment, on a voulu le faire en France, et on a prétendu, par exemple, dans certaines professions, comme la profession médicale, limiter l'accès des Israélites à la profession médicale en établissant des quotas, c'est-à-dire qu'il y avait un quota d'Israélites parmi les médecins qui était le même que le quota d'Israélites parmi la population en général. Ça a posé quand même pas mal de problèmes, ça a abouti à des considérations diverses et variées, on peut dire que tout le monde n'était pas d'accord, donc curieusement au premier plan les Israélites. Alors là, il faut donc tirer les conclusions de cette question, de deux choses l'une, l'autre étant le soleil bien entendu, où il y a 38% d'immigrés ou d'issus de l'immigration en France, et à ce moment-là donc on applique la théorie des quotas en décidant qu'il y aura 38% de jeunes issus de l'immigration parmi les nouveaux fonctionnaires, les agents de médiation des quoi, comment c'est déjà, agents de médiation, c'est pas croyable, hein. Agents locaux de médiation sociale, on verra dans une minute ce que c'est que les agents locaux de médiation sociale. Donc 35% pardon, d'immigrés en France ou de d'issus de l'immigration, et donc 35% d'administration. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on nous ment sur les chiffres de la population française. On nous ment, puisqu'on ne nous dit pas qu'en réalité la population française est en train de subir un véritable bouleversement intérieur, puisque plus du tiers de cette population serait constituée de gens issus de l'immigration, ce qui est quand même très important, je ne crois pas que ça existe dans beaucoup de pays du monde. Ou alors, on nous dit, il ne s'agit pas d'une politique de quotas, il s'agit réellement de favoriser certains membres de la population française à raison de leur naissance, de leurs origines ethniques, nationales, raciales ou religieuses. Et à ce moment-là, on est dans le cadre d'un délit qui est puni par la loi Guesso. Donc, la chose est assez claire, on est dans une situation de non-droit officiel mis en avant par la préfecture de police qui s'en vante. C'est quand même assez incroyable. Alors juste à côté d'en présent, je disais qu'on allait dire ce que c'était que les ALMS. Eh bien, il y a un exemple d'ALMS. Vous savez que depuis quelque temps, les citadins, les Français, en tout cas ceux de Paris et des banlieues occupées, ont acquis la conviction que les transports en commun représentent un des lieux de vie, comme on dit maintenant, les plus dangereux qui soient. Les statistiques sont là pour confirmer que c'est pas totalement idiot comme hypothèse. Alors la SNCF a décidé de prendre les choses à bras-le-corps, et comme on vit dans un système nominaliste, qu'est-ce qu'on fait? On change le nom. C'est-à-dire qu'avant ça s'appelait les trains de banlieue, et maintenant c'est fini, ça va s'appeler les Transiliens. Avec cette différence que, bien entendu, tout ce qui se passait dans les trains de banlieue ne se passera plus dans les Transiliens, on a bien compris. Et donc, alors, quelles sont les décisions qui ont été prises relativement au fonctionnement des Transiliens pour améliorer la sécurité? Alors, il y a eu une conférence de presse dont Benoît Laurin fait état dans présent, conférence de presse qui a présenté le Transilien flambant neuf dans la gare d'Asnières, relooké elle aussi à la mode transilienne. Et on nous a dit, voyez, alors maintenant on a fait plein de choses, des guichets fleuris, des bancs gris clair, évidemment, c'est radical contre l'insécurité. C'est vrai que, imaginez un type qui veut vous attaquer à minuit dans une gare de banlieue, il voit un banc gris clair, il n'ose pas. Et en plus, les guichets sont fleuris. Alors, on peut pas attaquer les gens dans une gare dont les guichets sont fleuris et les bancs gris clair. Si c'était des bancs verts comme maintenant et des guichets pas fleuris, là, on peut y aller ardemment. Mais bon. Alors, c'est pas seulement ça. Il y a une autre solution qui a été trouvée. C'est Monsieur Louis Gallois, le PDG de la SNCF, qui a présenté le projet, et donc il a annoncé que maintenant il y aurait 800 emplois jeunes, c'est-à-dire donc les ALMS en question là, qui vont être créés pour, l'expression est belle, assurer l'ouverture par pair. Alors un agent et un employé jeune qu'on a appelé agent d'ambiance. Benoît Laurin dit, bah, après tout, il y a bien des parfums d'ambiance, pourquoi il n'y aura pas des agents d'ambiance? Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Il y en a un qui sera, écoutez bien, c'est quand même extraordinaire, il y en a un qui sera devant le guichet de banlieue, et l'autre qui sera sur le quai. Et ils seront chargés d'assurer la sécurité. Alors, si vous imaginez qu'ils voient arriver un gang de sauvageons à une heure, à minuit et demi, avec des barres de fer, des chaînes de vélo, et autres menus objets contondants, je voudrais bien savoir comment ils vont faire pour assurer la sécurité. D'ailleurs, il y a un syndicaliste qui a dit « Ces agents ne seront pas en sécurité eux-mêmes, quand voulez-vous qu'ils sécurisent les autres voyageurs ?» Effectivement, il va falloir bientôt mettre des agents de sécurité qui seront chargés d'assurer la sécurité des agents de sécurité. Et parce que, dit un cheminot, ça signifie que l'emploi jeune, on appelle ça emploi jeune maintenant, l'emploi jeune sera sur le quai avec un téléphone portable et un autre jeune embauché seul devant le guichet. C'est formidable. On va enfin pouvoir prendre le train en sécurité. Parce que les gens, jusqu'à présent, ne prennent pas le train en sécurité. Et on nous a expliqué, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur voiture. Sauf des jours comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous avez vu que c'est Paris sans voiture. Alors, je voudrais qu'on s'arrête, si vous permettez, un instant sur cette affaire de la journée sans voiture. D'abord, qu'est-ce que ça a provoqué à ce jour, enfin aujourd'hui là, à Paris et région parisienne? J'ai écouté les informations dans la journée sur les postes qui donnent les points de la circulation. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que ce matin, tous les accès de la capitale étaient encombrés, comme par devant, comme un jour où on peut circuler normalement. La seule différence, c'est quand les gens sont arrivés aux portes de la capitale, on leur a dit, vous savez qu'il y a des quartiers où vous n'avez pas le droit de circuler. Enfin, on leur a même pas dit ça. On les a laissés entrer. Et puis quand ils sont arrivés à la hauteur des quartiers interdits, il y avait là des policiers à l'entrée des rues qui leur ont dit non, vous pouvez pas entrer. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le gars, il laisse sa voiture, enfin, il se gare, mais où? Bon, naturellement, alors on vous dit, mais vous avez été prévenus. Mais ils ont été prévenus comment? Ils ont été prévenus par lettre individuelle? Ah non, la télévision. Mais si on n'a pas la télé, si on considère que la télé est une saloperie qui vous bourre le crâne et qu'on veut pas la regarder, ben vous avez la radio. Mais si on considère que la radio est une autre saloperie qui vous bourre le crâne, sauf Radio Courtoisie, eh ben vous avez les journaux. Oui, mais si on considère que les journaux sont des saloperies qui vous bourrent le crâne, si on veut pas de votre propagande de merde à la radio, dans les journaux, à la télévision toute la journée, comment on peut savoir qu'on n'a pas le droit de rouler en voiture dans Paris aujourd'hui? Eh ben on peut pas le savoir. Donc on arrive avec sa voiture. Ça crée des difficultés monumentales. Alors, on nous dit, mais vous comprenez, c'est aussi un problème de pollution. C'est-à-dire qu'il faut pallier la pollution qui devient très gênante en France. Or, on sait aujourd'hui, de façon officielle, que la pollution automobile représente moins de 5%, enfin, la circulation automobile représente moins de 5% des causes de pollution à Paris. On le sait, justement à cause des expériences qui ont été faites récemment, expériences de journée sans voiture, puisque la pollution ne diminue pas de plus de 5%, et encore en traficotant les chiffres. La principale pollution, elle vient de l'industrie. Donc c'est une pollution industrielle. Pourquoi on n'arrête pas les usines une fois par an, ou deux fois par an, ou une fois par mois, une fois par semaine? Alors on nous dit que c'est pas possible pour des raisons économiques. Mais je suis désolé, est-ce que vous imaginez que d'empêcher les gens de circuler toute la journée dans Paris, ça n'a pas de conséquences économiques? Je prendrai un exemple ce matin quand j'ai téléphoné à l'imprimeur pour dire « Est-ce que vous allez livrer mon journal aujourd'hui ?» Il m'a dit « Écoutez, non, parce qu'on ne peut pas circuler dans Paris. » Bon, finalement, ils se sont quand même débrouillés pour livrer. Mais ça pose des problèmes gigantesques. Vous avez des gens qui sont arrivés très en retard au boulot, vous avez des gens qui n'ont pas pu venir travailler, vous avez des gens qui ont passé des heures dans les transports, il y a eu des embouteillages, il y a eu beaucoup plus d'accidents que d'habitude, il y a eu enfin tout un tas de conséquences économiques graves, et au moins aussi graves que les conséquences de l'arrêt d'une usine. Donc c'est pas pour ça qu'on... Alors pourquoi on fait ça? D'abord, qui décide ça? On nous dit c'est Madame Voynet. Moi je veux bien que ce soit Madame Voynet. Mais à quel titre, dans une démocratie, puisqu'il paraît qu'on vit dans une démocratie, une femme toute seule, qui n'est l'élue que d'une infime proportion de la population, infinitésimale, de quel droit elle peut décider que des millions de citoyens ont ou pas le droit de faire quelque chose. On est dans une démocratie parlementaire. Quelle est la loi? Quel est le décret? Quel est l'acte démocratique qui a décidé que des gens avaient le droit de rouler et d'autres gens n'avaient pas le droit de rouler? Qui décide ça? Madame Voynet.
Les maires.
À quel titre elle peut... Il y a les, enfin, n'importe qui pourrait le décider. Oui. Mais à quel titre elle prend cette décision? Qu'est-ce qui fonde? Parce que si demain, Madame Voynet décide que j'ai pas le droit de manger, je sais pas moi, une côte de porc à déjeuner, alors on va envoyer les flics dans les restaurants pour voir s'ils bouffent une côte de porc. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Ça, c'est quand même une bonne question, je crois. Qui donne à Madame Voynet le pouvoir de donner aux policiers l'ordre d'empêcher les gens de circuler? Est-ce que si moi je refuse d'obtempérer, je vais être condamné à quel titre? Parce que le bon vouloir de Madame Voynet, le bon plaisir de Madame Voynet est que je marche à pied ce jour-là, ou que je prenne un métro, ou que je prenne un autobus, ou que je prenne le train. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis absolument certain que cette histoire, elle a des motivations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous raconte. Il ne s'agit pas du tout de remédier à la pollution, car ça n'est en aucun cas un remède à la pollution. Il s'agit tout simplement de multiplier les actes arbitraires par lesquels on va accoutumer la population de la France à accepter n'importe quelle lubie de n'importe quel cinglé, pourvu qu'il soit investi d'une espèce d'apparence de fonction officielle. Ministre de l'Environnement, c'est du pipeau. Ça n'est rien du tout. N'importe quel chien coiffé peut être ministre de l'Environnement. Il n'y a même pas besoin d'être élu pour être ministre de l'Environnement. Il suffit que le Premier ministre décide qu'il y a un ministre de l'Environnement et décide, le premier crétin venu, le taré le plus dégénéré qu'il soit, et voilà, vous serez ministre de l'Environnement, et il devient ministre de l'Environnement. Ou ministre de l'Éducation nationale, ou ministre de la Culture, ou ministre de l'Intérieur, ou ministre de n'importe quoi. Un ministre n'est rien. Il a en réalité aucune légitimité démocratique, puisqu'il paraît qu'on est en démocratie. Il n'a pas besoin d'être député, il n'a pas besoin d'être élu, rien du tout. N'importe quel abruti peut être ministre. On a même vu Sauvagnard être ministre. Je vais vous dire à quel point c'est invraisemblable, à quel point le métier de ministre est ouvert à n'importe qui. Eh bien, ce type-là, ces gens-là, ils ont la possibilité d'exercer leur arbitraire, et tous les citoyens sont obligés d'obéir à la lubie de ce type, de ces gens-là. Et ça habitue donc les citoyens à obéir à n'importe quelle lubie, à n'importe quel moment. La preuve, quand il y a la Gay Pride, cette épouvantable manifestation de tarés, de malades qui traversent Paris, on bloque la circulation dans Paris pour laisser passer les tarés et les malades. Quand il y a, comme l'autre jour, la technoparade, Paris, une région, enfin le quart nord-est de Paris, ou plutôt la moitié est de Paris, est devenu un enfer. Un enfer dimanche, samedi soir. C'était absolument impossible de circuler. J'ai mis pour aller à Baltard, on a mis, en partant de la place Franz Liszt pour aller à Nogent, on a mis 2h30. On a été bloqué 2h30 dans des embouteillages par des policiers qui obéissaient aux ordres d'on ne sait qui pour permettre à des dégénérés de se balader en tapant sur des tam-tams pendant une heure dans Paris, déguisé en diable, en démon, en femme, sur des chars monstrueux et tout. Alors, jusqu'à quand ça va durer ce truc-là? Jusqu'à quand les citoyens français vont-ils accepter d'être traités comme des mineurs, non pas des mineurs de fond, mais comme des mineurs civiques et des mineurs civils qui se laissent ordonner donner n'importe quel ordre à un imbécile par n'importe quel képi enfoncé sur le front au motif qu'un ministre dont on ne sait pas qui il est, dont on ne sait pas d'où il sort et dont on ne sait pas qui lui donne sa légitimité a décidé de favoriser telle manifestation de tapette, telle manifestation de dégénéré ou telle lubie de cinglé qui croit que c'est en empêchant les voitures de rouler qu'on va régler le problème de la pollution. Je trouve que ça mérite qu'on s'interroge longuement là-dessus. Il faut savoir jusqu'à quel moment on a le devoir moral d'obéir à un système de cette nature. C'est un vrai problème de philosophie politique. Jusqu'à quel moment a-t-on le devoir d'obéir? À partir de quel moment la révolte, la rébellion devient-elle légitime? Je me pose la question. De la même manière, on nous abrutit littéralement depuis 2 jours avec le procès des scientologues. J'ai dit ici ce que je pensais des scientologues, je le répète, je pense que la scientologie est une arnaque, que la scientologie est un groupe de satanistes dangereux qui obéissent qui appliquent les idées d'un fou furieux qui s'appelait Ron Hubbard, qui était un dingo intégral, et je pense que ces gens-là sont dangereux. Mais je répète qu'on les poursuit pour de mauvaises raisons, qu'on leur fait un mauvais procès, et que ce procès contre la scientologie, je vous le dis, je vous le prédis d'une façon certaine, avant quelques années, il sera instruit contre l'Église catholique. Et ceux qui seront visés, ce sont les prêtres de la tradition d'abord, et ensuite tous les prêtres. C'est évident, une fois qu'on aura créé ce précédent, on aura toutes les raisons légitimes ou légales, ou légalistes, de faire la même chose avec n'importe quel groupe humain qui revendique une certaine transcendance. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui des scientologues, je dis bien tout ce qu'on dit aujourd'hui des scientologues, on peut, sans trop d'efforts, le dire de n'importe quelle congrégation religieuse catholique. Il suffit de solliciter un petit peu le vocabulaire. Et je trouve que c'est extrêmement grave, non pas que le pouvoir, les pouvoirs fassent ça. Ça, c'est pas grave, parce que les pouvoirs, par définition, sont totalitaires. Ils visent au totalitarisme. Tous les pouvoirs visent au totalitarisme. Le pouvoir absolu corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les hommes politiques, aujourd'hui, sont corrompus. Ce sont des voleurs, des tricheurs, des menteurs. Et je dirais à 99%, pour des raisons légales, on ne peut pas dire à 100% parce que on aurait trop d'ennuis. Mais disons 99%. Alors, félicitations à ceux qui se reconnaissent parmi le 1%. Et on est donc dans une situation où, légitimement, on a le droit d'entrer en résistance. Je répète qu'on a le droit d'entrer en résistance. Ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme des imbéciles, prendre des fusils et descendre dans la rue. Parce que ça, c'est pas de la résistance. Ça, c'est du suicide. C'est pas dans le système actuel, c'est du suicide. La résistance ne se fait pas de cette façon-là. La résistance, elle se fait d'une façon intelligente, par des actes posés, des actes de sabotage civique. Je dis de sabotage civique parce que il s'agit de prendre le système à son propre piège. Le système édicte des règles. Il faut appliquer ces règles jusqu'à l'absurdité. Et j'ai déjà dit, par exemple, quel usage on pouvait faire des feuilles d'impôt, puisqu'il veut, le pouvoir veut des feuilles d'impôt, il faut lui envoyer des feuilles d'impôt. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et comme vous n'êtes pas sûr, par exemple, que votre voisin déclare bien ses impôts, vous pouvez très bien aller chercher des feuilles d'impôt vierges à la mairie et faire des déclarations d'impôt au nom de votre voisin. Personne ne peut vous en empêcher. Hein, si vous pensez qu'il a oublié de le faire, vous pouvez l'aider. S'ils reçoivent 3 ou 4 feuilles d'impôt de la même personne avec des chiffres différents et des informations différentes, après tout, les fonctionnaires sont là pour faire leur travail. Il faudra bien qu'ils trouvent laquelle est la bonne. À propos des fonctionnaires, la semaine dernière, j'ai raconté 3 blagues sur les fonctionnaires. Alors, un agent EDF me dit « Vous êtes livré dans votre dernière émission sur Radio Courtoisie à de douteuses plaisanteries sur les fonctionnaires. » Alors, ce qui est formidable en France aujourd'hui, c'est que les plaisanteries sont toujours très drôles quand elles attaquent les autres. Enfin, quand elles parlent des autres. Si j'avais parlé des militaires, par exemple, hein, les fonctionnaires ne trouvent pas que ce soit douteux. C'est pas des plaisanteries douteuses. Si je fais des plaisanteries douteuses sur les fonctionnaires, les épiciers ne trouvent pas que c'est douteux du tout. Si je fais des plaisanteries douteuses sur les épiciers, les fonctionnaires se marrent. On est rentré dans un pays qui même pas... On comprend pourquoi le politiquement correct fonctionne, pourquoi la pensée unique fonctionne. Puisque le politiquement correct, il est universel maintenant. Quand on dit quelque chose pour rire, si je raconte, dans le temps, on racontait l'histoire de belle-mère, eh bien, maintenant, vous pouvez pas. Il y aurait immédiatement une association de défense des belles-mères qui se créerait pour faire un procès. On a l'habitude en France, depuis une éternité, de faire des plaisanteries machistes. Hein. C'est pour bien méchant, on dit un juge en jupon, ou Eh bien, maintenant, c'est fini. Il y a une association qui vient de se créer, qui s'appelle les chiennes de garde, et qui a décidé qu'elle allait faire des procès à chaque fois aux gens qui feraient des plaisanteries machistes, c'est-à-dire qui mettraient en avant le sexe féminin de la personne à propos de laquelle ils raconteront une blague. Alors donc, ce fonctionnaire me dit « Il est en effet très facile de comparer... de faire des jeux de mots autour des sigles SNCF, parce que j'avais dit SNCF, ça veut dire, qu'est-ce que c'était déjà?
Pardon?
SNCF, qu'est-ce que j'avais trouvé?
Enfin, je me rappelle plus.
pas bien méchant. RATP, c'était
Reste assis, t'es payé.
Et EDF, enfant de feignant. Bon. Alors, naturellement. Ben oui, c'est facile, évidemment. En général, d'ailleurs, les plaisanteries, c'est quelque chose de très, très, très facile. Alors, il m'a dit, il y a des fonctionnaires parmi vos auditeurs, et j'en suis. Ben, j'espère qu'il y a des fonctionnaires, parce que comme ils représentent pratiquement 30% de la population, s'il n'y avait pas de fonctionnaires parmi les auditeurs, on n'en aurait pas beaucoup. Alors, la pilule est un peu dure à avaler. Et s'il y a en notre sein des brebis galeuses comme dans n'importe quelle corporation, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont une haute idée du service public, et sans lesquels, monsieur de Beckett, vous ne pourriez pas utiliser les trains, les métros, ou faire fonctionner vos rotatives à l'électricité. Mais monsieur, c'est pas la peine de vous mettre en colère, je le sais bien, tout ça. Alors, c'est des blagues. C'est comme je dis, on dit pas un aigle, on dit un oiseau de couleur, c'est pas la peine de m'envoyer la licra. C'est une blague. C'est pas raciste, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire. Tout le monde n'est pas obligé de se marrer. Mais d'abord, parce que les blagues, c'est quand même très personnel. Hein. Il y en a qui font rire, il y en a qui font pas rire. Moi, il y en a qui me font pas rire du tout, par exemple. Les histoires juives me font pas rire du tout. Mais pas du tout, alors. Alors, il dit, il termine en disant, cela dit, vos propos n'étaient pas bien méchants et je vous pardonnerai votre outrecuidance. Je sais pas où j'ai outrecuidé, mais bon. Si vous aviez la politesse de le regretter au micro. Mais non, je regrette pas, voilà, je viens d'expliquer, je ne regrette pas du tout. Je recommencerai d'ailleurs. Et alors il termine en disant, à moins que vos initiales S2B signifient sommet de la bêtise. Alors je vous le dis, monsieur, l'association des S2B va porter plainte contre vous, parce que c'est inadmissible. Quoi. Moi, j'aime pas qu'on plaisante sur
les
moi.
Fans, hein. Hein,
je trouve que ces plaisanteries sont douteuses. Voilà. Mais bien sûr, je voulais fonctionner. Alors, cela dit, quand vous me dites que c'est grâce aux fonctionnaires que je peux prendre le train, le métro et m'éclairer, c'est uniquement parce qu'on est en France. Parce que je vous signale qu'en Angleterre, on peut prendre le train sans le secours des fonctionnaires. Aux États-Unis, on peut avoir l'électricité chez soi sans le secours des fonctionnaires. Et la RATP, avant d'être la RATP, c'était une série de réseaux parisiens qui appartenaient à des sociétés privées. Et ça marchait pas moins bien. Hein. Donc, je répète ce que je pense réellement. 90% des fonctionnaires ne servent strictement à rien, sinon à faire fonctionner la machine fonctionnaire. C'est exactement comme la machine à fabriquer des mégots, comme disait Le Pen. Hein. C'est-à-dire, on n'en a vraiment pas besoin. Non, je pense réellement que la plupart des fonctionnaires ne servent à rien. Par exemple, aujourd'hui, on a vu à quoi servaient les fonctionnaires de police à Paris. Toutes les rues qui donnaient accès aux quartiers interdits étaient fermées par des barrières. Donc, quand on met une barrière, ça veut dire qu'on peut pas passer. Déjà, il a fallu des fonctionnaires pour déposer ces barrières. Mais après, il faut des fonctionnaires pour garder les barrières. C'est-à-dire que devant chaque barrière, on avait mis, j'ai compté par exemple à côté de chez moi, en haut de la rue du Faubourg Saint-Denis, il y avait 6 flics pour garder la barrière de la rue du Faubourg Saint-Denis. Alors, c'est pas la peine de mettre des barrières. Il n'y a qu'à mettre 2 flics qui disent aux voitures, vous passez pas. Si on met des barrières qu'on fait poser par des fonctionnaires et qu'on fait garder les barrières par des fonctionnaires, je pose la question, qui gardera les fonctionnaires? Des fonctionnaires. Voilà. Alors, il y a quand même 6 millions de chômeurs dans ce pays. Il n'y a qu'à embaucher 6 millions de fonctionnaires de plus.
Oui.
Hein? Et d'ailleurs, moi je trouve, en fait, on devrait même plus payer les gens. On devrait envoyer, tous les employeurs devraient envoyer l'argent directement aux impôts et tout le monde serait payé par le fisc. Ça serait d'abord une révolution. C'est-à-dire, au lieu de donner de l'argent au fisc, c'est le fisc qui nous donnerait de l'argent. D'où les fonctionnaires des impôts deviendraient des gens sympathiques. Hein? Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et ensuite, on aurait tous la même chose. C'est-à-dire le père Argouache, au lieu d'être riche à millions, il aurait 2000 francs par mois ou 3000 francs, enfin le SMIC quoi, ou le RMI. Moi, au lieu de rien avoir, j'aurais un petit peu. Et voilà. Hein? Et vous, Victoria, au lieu de toucher votre retraite scandaleuse de fonctionnaire.
Énorme scandaleuse.
Car Victoria était fonctionnaire. C'est incroyable. Ça serait bien comme système. Voilà.
Serge, parlez-nous donc aussi d'une chose qui a fait peu parler, des populations halogènes en Corse. Vous avez entendu
ça? Ah oui, j'ai entendu ça.
Ah, je trouve ça... Moi,
mais non, mais
ça,
c'est
ça
pas...
Ça me fait mettre les cheveux droits sur la tête.
Mais c'est très bien, ils ont raison.
Ah bah bravo.
Bah écoutez, pourquoi... bien sûr qu'ils ont raison. Puisque ça a été officialisé en Nouvelle-Calédonie.
Mais pourquoi pas?
La loi qui annonce... les nouvelles dispositions en Nouvelle-Calédonie prévoient que sont considérés comme des citoyens de seconde zone les Européens ou les non-calédoniens, les non-caldeux, ou les non-canaques plutôt. Bon, eh ben les Corses, ils disent, nous on veut la même chose. On fait la même chose. envers que les Français de France, ils soient ici comme des étrangers. Et nous, on est chez nous. Moi, je dis la même chose.
Ils disent comme des étrangers, mais même, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent pas du tout que les gens viennent.
Ils ont raison,
moi non plus. Même pour travailler sur une entreprise louée.
Mais non, mais
ils n'ont pas acheté, c'est pas des gros capitalistes
qui
sont venus.
Au contraire, c'était des gros capitalistes, ça serait mieux. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut absolument appliquer. Ils parlent comme Le Pen. Alors, pour une fois qu'il y a des gens qui peuvent parler comme Le Pen, et pire que Le Pen, si j'ose dire, ou Maigret, et dire, voilà, nous, chez nous, on veut être entre nous. On veut pas d'étrangers. Moi, ça fait 30 ans que je dis ça. J'ai été condamné au moins 20 fois devant les tribunaux pour l'avoir dit. On va voir s'ils vont condamner les Corses, maintenant. Mais je trouve ça bien. Pourquoi
les Corses, ils sont français. Les Bretons, ils sont français. Donc,
mais
les Bretons français, ils ont le droit d'aller s'installer.
Les beurs de Sarcelles, ils sont français aussi, alors. Tout le monde est français. Puisqu'il suffit de naître en France pour être français, aujourd'hui. Donc n'importe qui, un cheval qui naît dans un écurie, une vache qui naît dans une écurie, on l'appelle un cheval, et puis ça va, ça roule.
Je n'aime pas la dérision, j'arrête tout de suite. Bon, adieu.
C'est pas du tout de la dérision.
Voulez-vous
que
je vous lise des messages des auditeurs ?
Faites donc ça.
À propos de la journée sans automobile, Rémi Prudhomme, économiste aux Ponts et Chaussées, expliquait dans un article que les pics de pollution augmentent à Paris en août, lorsque les voitures sont parties, et diminuent lorsque, fort heureusement, les voitures reviennent. D'accord avec vous, de Becketch, non au parti transgénique.
Monsieur de Becketch, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on me montre un peu
c'est
de considération.
C'est quelqu'un qui vous connaît le prof.
Oui, donc voilà.
Alors, la décision est européenne, la décision de la journée sans voiture est européenne au même titre que le battage fait autour de l'éclipse, dont on a déclaré à la télévision que cela permettait de faire penser à tous les Européens la même chose en même temps.
Je viens d'avoir une idée. Comme vous avez dit, c'est une décision européenne. J'ai une idée géniale pour l'année prochaine. Même on peut faire sans attendre la fin de l'année. C'est pas difficile à organiser. Il suffit de donner une bonne information. Et on devrait faire une journée sans cons.
Depuis le dîner de cons.
Non, mais c'est vrai. Ça serait une bonne idée.
Les portes sont ouvertes.
En fait, je vous assure. Alors, on pourrait se promener tranquille dans les rues, là. Ça, il n'y aurait pas d'embouteillage. Hein. Interdiction de sortir. Vous restez chez vous. Ça serait mieux que la journée sans voiture. À mon avis, contre la pollution, ce serait plus radical. Non ?
Pour une fois, je suis en désaccord. Ah. Estimer que les voitures ne sont pas polluantes qu'à 5% me choque.
Mais c'est pas estimé, c'est des chiffres officiels.
Quand on voit le nuage bleuté de Paris, dans Paris, presque au ras du sol, qui gêne la respiration, cela vient bien des voitures,
non,
qui est la plus grosse pollution.
Faux.
L'industrie vient en second pour
faux,
moi.
Faux, c'est faux. C'est faux, voilà. Ça n'est pas conforme à la réalité. Tout le monde pense ça, parce qu'on vous le dit. On vous dit à la longueur de journée sur la télévision, à la radio, c'est la voiture qui pollue, c'est la voiture qui pollue, c'est la voiture qui pollue. C'est pas la voiture qui pollue. La voiture pollue, bien sûr. Mais par rapport à la pollution industrielle, la pollution automobile est dérisoire. C'est absolument patent. Ça peut être vérifié, mathématiquement. Quel vilain mot.
Artisan électricien, je n'ai pas pu travailler dans le centre de Paris aujourd'hui. J'ai téléphoné à Mme Voinet au ministère de l'Environnement, mais elle n'était pas là. J'ai alors demandé le service comptabilité pour envoyer une facture pour m'être dédommagée. On m'a répondu que de toute façon, il ne la paierait pas. Une dame pense que c'est ridicule, on n'a pas le droit de polluer pendant une journée, mais les 364 jours restants, on peut.
Et même en 2000, il restera encore 365 jours pour polluer. Parce
et que attention, vous ne savez pas tout sur ça. On vous annonce qu'il est prévu une journée sans pollution qui interdira la consommation de haricots en grains, arpajon, soisson, etc., de pois verts et autres féculents flatulents.
Ah ben absolument, c'est absolument indispensable.
En anglais, le mot ALMS, A-L-M-S, est un nom commun qui signifie aumône. Les noms prédestinés. Parmi tous les boulots jeunes, on a inventé animateur en mécanique.
Animateur en mécanique, c'est joli comme métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis emploi jeune. Et spécialité, animateur en mécanique.
Et dans la série des choses qu'on impose arbitrairement, n'oublions pas l'heure d'été depuis 23 ans. Tout ce qui pourrait devenir totalitaire commence par l'arbitraire. Voilà-t-il pas une belle phrase ?
Ah si, je me la garde. Monsieur Argouache-Prêtre, je vous salue. Parce que non, mais maintenant je me mets au goût du jour. Parce qu'on est,
je suis pas comme, encore camarade quand même.
Comme on est multiconfessionnel, je peux plus dire mon père, parce que ça, on dirait, mais c'est, je dirais monsieur Argouache-Prêtre. Non, mais à part, blague à part. Allez, finissons-en. Vous avez rentré vos enfants, vos brebis à votre bercail?
Oui, on a fait une rentrée avec une quarantaine d'enfants.
Où? Parce qu'il faut, comme on a toujours de nouveaux éditeurs.
À Riomont, le village d'enfants de Riomont dans le Pas-de-Calais, au milieu des terris, parce qu'il y a encore des terris, mais qui sont boisés maintenant. Ça devient très très joli. Et l'école Saint-Jean Bosco, donc 6e, 5e, 4e, 3e, et puis l'école d'ébénisterie. On a reçu une quarantaine d'enfants. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Et pour les frères, pour la communauté, c'est d'abord l'accueil, c'est les recevoir, c'est les comprendre.
Alors il faut dire que le village d'enfants de Riomont, c'est une extension de l'institut religieux dont vous êtes
Mais le village d'enfants de Riomont est venu avant l'institut religieux, contrairement à beaucoup de fondations. C'est un prêtre, le père Revet, qui a fondé le village d'enfants de Riomont.
Et pour accueillir
des enfants qui ont des problèmes familiaux. Mais en fait, tout enfant peut pratiquement venir à Riomont s'il le désire et si ses parents le souhaitent. On accueille beaucoup de jeunes, en plus de ceux qui sont internes, qui viennent pour le scoutisme, qui viennent des cités, des environs, simplement pour jouer et découvrir ce village qui est original.
Donc, la rentrée a eu lieu il y a quelques temps.
Oui, vers le 6-7 septembre, oui.
Et donc, vous avez maintenant 40 enfants, de quelle classe à quelle classe?
Donc, de la 6e à la 3e, et puis avec des classes techniques. On a eu un grand résultat l'année dernière, c'est que nos trois candidats au CAP d'ébéniste ont été reçus tous les trois. Et ce que je voudrais cette année, c'est développer cette école d'ébénisterie et j'espère faire un coup formidable, si la Providence le veut bien, en développant cette école et en trouvant un bâtiment qui sera susceptible de recevoir toutes nos machines, parce qu'elles sont un peu les unes sur les autres. Et puis, j'oublie pas que c'est le travail de notre Seigneur Jésus-Christ, le travail du bois et de Saint-Joseph. Et quand on a construit le Mont Saint-Michel pour ce feu de camp de fin juin, il y a eu vraiment le bois, qui est un des matériaux nobles, a ennobli aussi l'esprit des enfants et ils ont vraiment progressé.
Et embaumé, parce qu'il y a un parfum de... De bois, c'est
oui.
Vrai. C'est,
et même de bois mouillé, non?
De bois mouillé, mais c'est très agréable.
Oui.
Alors donc, cette rentrée se passe plutôt d'une manière...
Oui, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que je cherche des professeurs. Et vous savez que à Radio Courtoisie, mon appel tombe jamais à côté. Il y a quelquefois un jeune qui veut donner une année au village d'enfants de Riomont. Et à ce jeune qui m'écoute... Je lui dis, tu peux venir comme professeur d'anglais, de mathématiques, de physique pour des classes de 3e, 4e. Tu peux venir pour enseigner l'allemand en 3e ou 4e, ou le latin en 4e, 5e, 6e, ou le français. Et puis si tu as du cœur, tu m'écoutes et tu as envie de venir à Riomont, tu peux venir aussi nous aider à surveiller les études et puis à t'occuper des enfants. Bien sûr, on est nombreux. Il faut quand même que ce soit un garçon qui ait du cœur, mais aussi du tempérament, du caractère, parce que il va se retrouver avec des enfants qui en ont. Et donc, il faut qu'il soit un exemple, et non pas un pâle responsable, qu'il soit un exemple, qu'il incarne un idéal pour tracer la route devant ces garçons.
Et en plus, ce qu'on lui demande, c'est pas seulement d'être un prof, c'est d'être, vous l'avez dit, un éducateur, un formateur, un chef.
Un chef.
Dans la tradition scout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Riomont, c'est aussi une troupe scout.
Bien sûr, mais autrefois,
tout à fait original.
Dans toutes les maisons d'enfants de France, pratiquement, l'éducateur était un chef. Et les enfants disaient chef. Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune éducateur. Mais puis après, c'est tombé parce qu'on ne veut plus de chef qui trace la route. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut le scoutisme est là comme pédagogie et c'est vrai que pour nous, c'est un levier formidable d'éducation. Et on l'a encore vu l'année dernière. Je suis très heureux de l'année que nous avons passée avec nos enfants. Il y a eu des choses formidables.
Alors, c'est une année l'année dernière qui s'est conclue par un événement extraordinaire qui a été, j'en ai parlé à ce micro déjà, mais qui était le feu de la Saint-Jean consacré à Saint-Michel, où vos garçons et vos frères, les jeunes religieux qui vous entourent et les élèves de Riomont ont construit une maquette du Mont Saint-Michel, une maquette qui faisait 35 mètres de haut.
Oui.
C'était quelque chose d'absolument stupéfiant à voir, avec une statue de Saint-Michel au sommet. Et là, ils ont donné un spectacle qui a duré 2 heures, sous une pluie d'ailleurs torrentielle. Oui. Personne n'a bougé. Et un spectacle qui racontait l'histoire du Mont Saint-Michel. Et je me souviens qu'on avait eu une conversation, un peu plus qu'une conversation après le spectacle, parce que vous m'avez dit, il faut qu'on démolisse tout ça rapidement pour des raisons de sécurité. Et je vous avais dit, d'ailleurs je n'ai pas été le seul, des dizaines de gens vous ont dit que c'était une folie de démolir.
Il semble que Saint-Michel se soit manifesté. Vous savez que je ne suis pas un saint, tout le monde le sait, tout le monde connaît mes défauts. Mais une nuit, je n'arrivais pas à dormir, puis il y avait Saint-Michel, toujours Saint-Michel, Saint-Michel. Alors il était 3 heures du matin, Saint-Michel, et je pensais toujours à Saint-Michel, et puis à la fin, au petit matin, j'ai dit, bon, ben, ça va, tu l'auras ton deuxième feu de camp. Et puis, c'est là que j'ai décidé de faire une deuxième fête de chrétienté, une gigantesque fête scout pour le 24 juin 2000. Et le 24 juin 2000 tombe justement la Saint-Jean-Baptiste. C'est un samedi soir. Et nous aurons au début, parce que la dernière fois on avait un spectacle sur l'évolution, nous aurons au début une veillée typiquement scout, avec des bancs, avec des sketchs très courts, avec nos chants, et je sentais déjà au dernier spectacle que ça manquait, et là je donne rendez-vous à tout le monde, à tous les scouts, au-delà des clivages qui existent actuels, parce que vous savez que c'est la guerre chez les scouts, au-delà de tous les clivages qui viennent tous pour cette grande fête du scoutisme.
Mais là, déjà, cette année, c'était une réussite totale. Et vous savez que ça a été le dernier grand moment de la vie d'un de nos amis, Jalico.
Oui. Qui est venu, je peux le dire, je sais que vous l'avez pris, vous l'avez apporté en voiture comme un malade qui demande une dernière faveur, comme celui qui va mourir qui demande une dernière faveur. Et il est venu et il était dans la voiture, il n'a pas pu assister au spectacle, mais vous l'avez habillé le lendemain pour qu'il soit en uniforme scout une dernière fois avec ses frères scouts, et je sais qu'il était à la messe du lendemain, une messe devant plus de 2000-2500 personnes, et il était là. Et quand j'ai su qu'il était là, c'était une très grande grâce pour moi, parce qu'il a rendu son âme à Dieu cet été.
Ouais, ça a été le dernier, sa dernière sortie. Moi, j'ai même cru qu'il allait rester à Riomont. Il était dans un.
Je l'ai béni dans la voiture. Quand je l'ai béni, j'ai dit c'est pas possible qu'il soit encore là. C'est vraiment aller jusqu'au bout de son idéal. Il a demandé d'ailleurs à être enterré avec son uniforme scout. Et c'était vraiment un scout jusqu'au bout des ongles.
Il a parlé, quand on l'a ramené en voiture, il était, le peu qu'il a parlé, c'était pour dire sa joie d'avoir été là. C'était un très grand, pour lui, c'était une grande façon de une grande belle façon de sortir, j'ose dire. Alors, donc, ce Mont Saint-Michel, il est resté, il sera.
On ne l'a pas démonté.
Il sera restauré.
Voilà. Samedi soir, justement, nous avons une réunion très importante avec toute la logistique pour préparer cette grande fête de l'an 2000. Et puis, alors, dernièrement, on a eu notre fête de la Sainte-Croix. Non pas le 14 septembre, mais on a fait la solennité le 19 septembre. Et puis, à la fin de cette messe qui était très belle avec tous nos enfants, songez que toute la nef était occupée par notre groupe scout, eh bien, nous avons béni, à la fin de cette messe, au mémorial des scouts morts pour la France, une croix de 7,38 m de hauteur, qui est illuminée et qui est bleue, si vous voulez. C'est une croix mariale qui est face à Lorette et qu'on voit à 12 ou 15 kilomètres, si vous voulez. C'est extraordinaire. Et vraiment, j'espère que ce signe de la Sainte Croix sur Riomont, eh bien, quand les gens le soir verront cette croix bleue, eh bien, ils auront des grâces. Et puis, j'ai donné le premier coup de pioche pour l'église. Ce permis de construire refusé, puis accepté parce que j'ai modifié les plans, et j'étais en chape, et j'ai donné le premier coup de pioche, j'ai béni la première pierre, et puis bien sûr je fais un appel, s'il y a des gens qui croient, si nos amis qui m'écoutent pensent qu'ils peuvent donner quelque chose pour faire cette église, qui sera une église, si Dieu veut, qui sera très spacieuse pour recevoir beaucoup de monde, eh bien, je les encourage, bien sûr, à m'envoyer, si c'est possible, des legs. Mais je parle beaucoup, et puis je voudrais encore dire quelque chose.
C'est pour ça qu'on vous invite à la radio, parce que si c'est bon pour en parler, ça va pas servir à grand chose.
Nous avons un groupe scout de Rignomont à Paris, et qui se développe, mais nous avons très peu de louveteaux. Alors ceux qui voudraient inscrire leurs enfants chez les louveteaux de Rignomont, parce qu'ils portent l'insigne scout de Rignomont, la bande scout de Rignomont, nous avons une autre association, ils peuvent téléphoner à Pierre Mitteau, 01 45 31 76 65. Je répète, 01 45 31 76 65. Voilà, et puis il y a toujours la possibilité de venir au village à tout moment. Vous savez qu'on a une hôtellerie. Et donc, on est prêt à recevoir les gens qui sont
de passage. Ça vraiment, ça vaut la peine. Il faut aller voir ce village. C'est quand même c'est un lieu très, très extraordinaire. D'abord, l'architecture est incroyable. C'est une espèce de village de Blanche-Neige, entre le village gaulois et le village de Blanche-Neige. Et puis.
Alors, on a retrouvé dans le bois de Rignomont, il y a quelques jours, l'ancienne chapelle Notre-Dame de Grâce, et on a retrouvé l'ancienne source, car autrefois à Rignomont il y avait un ermite. Alors on peut supposer qu'il y a eu toutes les prières de cet ermite pour qu'on arrive un jour. Je crois vraiment à la providence et à la prière de ces moines solitaires. Ce moine était là, on a retrouvé la source où il buvait à 5-6 mètres sous terre. Il y a une grue qui a retrouvé l'endroit où était la source, et on a retrouvé les ruines de cette chapelle. Je crois que cette colline est bénie de Dieu. C'était un village gaulois, puis mérovingien, déchiré par la guerre. Et ce que je voudrais dire, c'est que le père Revet en a fait non seulement un jardin d'enfants, mais une forteresse qui tient contre la décadence.
Et ça se voit, c'est physique. C'est-à-dire que quand on arrive, on voit une forteresse. Et on voit la tour magnifique que vous avez fait construire, qui est le mémorial des scouts morts pour la France.
Voilà. Alors je voulais vous dire encore, parce que vous me tendez la perche à chaque fois, je sais pas comment vous faites, à chaque fois, vous me donnez la possibilité de dire encore quelque chose.
C'est le talent.
Mais je cherche un graveur pour justement inscrire en lettres de sang sur des plaques de marbre le nom des scouts morts pour la France. Il se trouve que je l'ai fait faire, mais ça coûte très très cher. La personne qui viendrait sur place serait logée, bien sûr serait nourrie, et pourrait graver ces plaques et serait rétribuée. Je préfère rétribuer quelqu'un qui n'a pas de travail actuellement, qui est un graveur, qui cherche à faire à graver des plaques. Et vraiment, s'il venait chez moi, je l'accueillerais comme un roi. Je serais tellement content que tous les noms de ces garçons qui sont morts pour la France soient inscrits et qu'on puisse dire des messes pour eux. Parce que ce qui compte, c'est leur intercession. S'ils sont au ciel, ils peuvent intercéder pour nous. S'ils sont au purgatoire.
Donc, pour conclure, ou pour ne pas conclure, comme on dit ici, il faudrait que vous nous donniez une adresse, un numéro de téléphone et tous les renseignements propres à permettre aux auditeurs de Radio Courtoisie soit de vous proposer de venir enseigner, soit de vous proposer de venir graver, soit vous proposer de venir visiter, soit vous proposer de l'argent pour permettre à cette œuvre de tourner, parce que une chose que vous n'avez pas dite, c'est que je précise rapidement, c'est une œuvre qui n'est subventionnée en aucune manière et qui reçoit et qui j'ose pas dire redresse parce que le mot est horrible, mais qui donne une armature morale et physique à des enfants qui autrement seraient à l'abandon. Et quand je dis armature morale et physique, il faut savoir que il y a des enfants à Rignomont qui, s'ils n'étaient pas à Rignomont, mangeraient, suceraient des cailloux. Enfin, ils mangeraient un jour sur deux parce que ils vivent dans des familles qui sont des familles désunies, sont à l'abandon. Et c'est Rignomont qui leur permet de.
Alors, il y a d'autres enfants qui viennent de familles unies parce que de plus en plus, comme l'école est en complète décadence, il y a des parents qui se disent, on préfère encore qu'ils soient à Rignomont, même s'ils sont avec des garçons qui sont quelquefois un peu difficiles, au moins on sait où ils sont, alors que chez eux c'est catastrophique dans les écoles.
Ça leur apprend que la vie n'est pas un chemin de rose toujours, ils voient. C'est vrai que les enfants de nos familles Souvent sont des enfants qui sont relativement, j'ai bien relativement, avec tous les guillemets possibles, privilégiés, c'est-à-dire qu'ils ont des parents qui s'occupent d'eux, ils peuvent vivre à peu près correctement, etc., même dans les familles très très peu privilégiées. Mais donc ils ignorent qu'il y a des gosses qui vivent une véritable souffrance quotidienne. Et il faut les... il faut qu'ils
le savent.
Vous savez,
j'avais un garçon dans mon bureau qui était un garçon difficile hier. Je devais lui annoncer que sa sœur venait d'être de 18 ans, de 17 ans, et lui en a 15, venait d'être fauché par une voiture. Et sa sœur était morte. C'est moi qui devais lui annoncer dans le bureau cette nouvelle. Bon, il est scout, il porte le foulard sans or. C'est un garçon qui commence à vivre à Riomont, mais qui est un enfant déchiré par de grandes douleurs familiales. Et je vous assure que j'ai prié le bon Dieu en me demandant comment j'allais le dire. Et puis après, le père Hervé l'a pris pour qu'il prenne l'avion pour retourner dans sa famille, ce qui lui reste de famille. Vous voyez que tous ces drames, c'est notre travail d'éducateur d'aller jusqu'au bout et de leur faire partager notre foi, parce que s'ils ont la foi, ils ont l'espérance.
Merci mon père. Rappelez encore une fois l'adresse, s'il vous plaît.
Village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801 Liévin Cedex, et puis le numéro de téléphone de Riomont 03 21 28 32 09. Nous avons un site internet, mais je suis incapable de le donner. Demandez la revue, parce que nous avons une revue Citadelle de l'Espérance, et vous aurez tous les renseignements.
Merci mon père. Et puis à bientôt, on vous réinvitera pour que vous nous fassiez attendre la prochaine fête de la Saint-Jean et la grande fête scout de l'an 2000.
Merci monsieur Serge de Bekech.
Merci monsieur l'abbé. Ah non, on peut pas dire monsieur l'abbé. Alors merci père, monsieur Argouache, prêtre. Bien, et ben des messages, des remarques, des injures,
il y a beaucoup de choses, oui.
Vous voulez pas en parler?
C'est-à-dire que
je vais pas donner la parole à l'auditorat.
Si, je donne tout de suite.
Vous voyez, j'essaye, c'est pas moi, je dis ça aux auditeurs, je dis, t'inquiète, je parle tout
le temps. Quelque chose, j'en ai mis beaucoup sous le nez, les a tous jetés. Bon!
Non, vous
le dernier CD du groupe Basic Celtos est sorti et est disponible à la SERP.
Ah, très bien. Basic Celtos, c'est des gens charmants, ils chantent très très bien, puis pas beaucoup, donc c'est vraiment parfait. À propos de sortie, la cassette vidéo sur les feux de la Saint-Jean,
elle sort samedi. Oui, elle est faite, elle est extraordinaire, c'est la plus pro de toutes nos cassettes. Et donc, vous pouvez la commander déjà, elle n'est pas sortie en série, mais l'original sort samedi.
Ah, c'est vite. Alors, on la commande à l'adresse en question.
Oui, au village d'enfants de Riomont, à Liévin.
Ben j'ai bien fait de vous poser la question, moi je pensais que ce serait mieux.
Il y a le CD des musiques.
Au calendrier grec.
Le CD des musiques fait fureur parce que les enfants, été, ont écouté toute la journée le CD. Les parents en avaient un petit peu marre parce que c'était. Et ils connaissent les dialogues, si vous voulez, du CD par cœur et les enfants sont très pris par ces jeux musicaux.
Eh ben, ces enfants-là, il faut leur faire acheter maintenant le CD du groupe Basic Celtos. Comme ça, les parents vont savoir ce que c'est du rock identitaire.
Un auditeur revient sur l'affaire des voitures. Si Madame Voinet veut bien balayer devant sa porte, elle peut s'occuper de la synchronisation des feux. Une voiture qui démarre consomme autant de carburant que pour rouler plusieurs kilomètres. Voilà. Et comme bien. Il faut qu'elle démarre à tous les feux
qui sont mal réglés. Ça supposerait que Madame Voinet soit capable de synchroniser quelque chose.
Oui, il y a beaucoup de félicitations. Ils vous aiment, vos auditeurs.
C'est gentil.
Ils disent que vous avez vraiment une forme sublime aujourd'hui.
Moi aussi, je les aime. C'est pas si moi je m'aime.
Vous avez une forme sublime aujourd'hui, etc., etc.
Puis je suis content, je suis d'accord avec Gollnisch. Il a fait un communiqué où il dit « Il y a beaucoup plus puissant que la scientologie ». C'est à peu près ce que j'ai dit, quoi. Le député socialiste Alain Vivien, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes, se pose en héros de la lutte contre celle-ci. Prétention bien outrecuidante de la part d'un homme qui est lui-même membre d'une des officines les plus influentes de notre pays, le Grand Orient de France. Cette société secrète, véritable hiérarchie parallèle, il va encore se faire des amis, Gollnisch. Il trouve peut-être qu'il en a trop. C'est infiltré dans tous les rouages de l'État, que ce soit l'administration, la magistrature, le gouvernement, les partis politiques, les assemblées élues et la haute finance. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a 100 ans, la franc-maçonnerie avait fiché les milliers de militaires et de fonctionnaires dans le but avoué de briser la carrière de ceux dont les opinions ne lui convenaient pas. Cette affaire des fiches n'a jamais entraîné de sanctions, ni d'ailleurs de repentance d'aucune sorte de la part des coupables, exact. C'est l'une des nombreuses illustrations du pouvoir de nuisance de ces sociétés secrètes. Les administrés et les électeurs doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous proposons, comme l'avait suggéré Mr. Blair, Premier ministre travailliste de Grande-Bretagne, que les candidats à une place dans l'administration ou à un mandat électif soient tenus de déclarer leur appartenance éventuelle à la franc-maçonnerie. Ça serait rigolo, ça. Hein? Oui. J'en connais ici qui seraient bien embêtés si on leur demandait de faire ça.
Vous avez un certain
nombre... C'est pas de vous que je parle, monsieur l'abbé. Mon père, bien entendu, mais j'en connais d'autres.
Puisque vous parlez de Bruno Gollnisch, vous avez un certain nombre de messages qui n'ont pas de rapport avec ce qui a été dit à propos du Front National et du Mouvement National.
C'est cela, oui.
On vous dit, pourquoi les journaux nationaux catholiques, comme Présent, Monde et Vie, Le Libre Journal, etc., sont-ils interdits de séjour au BBR? Est-ce le tournant pro-islamique du Front qui provoque cela? Je ne sais plus où aller, de quel côté,
non,
et je suis perplexe. Merci de me répondre. Je vous lis le total.
Oui, oui,
Serge Lepecquetch pourrait-il nous dire comment s'est passée la réunion avec Bruno Maigret à nos gens, car je n'ai entendu aucun écho. Monsieur Beckel, j'aimerais savoir si vous êtes plutôt du Mouvement National, car à vous lire, on a cette impression. Je suis... ça, c'est plutôt un message personnel.
Bon. Ça doit être un tissu.
Pas du tout. Ah, il s'agit de votre toux et des bonbons qu'on vous a produits, enfin bon, qu'on vous conseille, etc. C'est tout pour le
c'est
moment.
Tout.
Enfin, peut-on comparer... J'ai pas lu encore ça. Ah si, tiens. D'une part, les camps scouts que l'on permet et les écoles publiques non conformes aux normes. D'autre part, entre l'interdiction de circuler les voitures à pollution contrôlée et les autobus non conformes, ainsi que les trains ou véhicules électriques producteurs d'ozone, il n'y a pas de justice. Bon.
D'accord. Non, mais c'est bien, ok.
Voilà, c'est tout.
Bon. Alors, en ce qui concerne le Baltard, la réunion du Mouvement National à Baltard, ça s'est très très bien passé. L'ambiance était extrêmement chaleureuse, extrêmement gentille. Les gens étaient aimables. Et on a été très bien accueillis. Et vous avez remarqué, c'était la moindre des choses, étant donné qu'on avait été invité. Alors, quand on est invité, quand on invite quelqu'un, si on le reçoit mal, ça pose problème quelque part, comme on dit. On a été très bien reçus. Sur l'autre question, je vais pas répondre moi-même. Je vais donner la parole à Gaston Gérard. Je crois que c'est Gaston Gérard. En tout cas, c'est GG.
GG.
GG de Présent. La signature, c'est GG. Et GG dit la chose suivante. Il dit, contrairement à une rumeur curieusement répandue, Présent, Rivarol, Mondévi, ni le Libre Journal n'ont été cette année invités à tenir un stand au BBR du FN qui auront lieu dimanche prochain. On a même inventé et fait circuler cette bizarre plaisanterie. Présent a été invité au BBR mais refuse d'y venir. Les discours répétés depuis le mois de février du président du Front National sont pourtant publics où ils affirment que la presse que l'on appelait naguère la presse amie doit désormais être traitée comme une presse ennemie. Attitude différente au MN qui ne réclame aucune allégeance. Les journaux nationaux structurellement indépendants de tout parti ou mouvement avaient été invités dimanche à tenir chacun son stand au pavillon Baltard. L'invitation avait été effectivement acceptée par Rivarol, Écrit de Paris, Mondévi, Le Libre Journal est présent. Ainsi, il donnait acte à Bruno Maigret, en quelque sorte, du fait que, sans discontinuer depuis le début de la crise MNFN, le MN avait recommandé à ses adhérents et sympathisants de lire la presse nationale pour elle-même, pour sa qualité intrinsèque, et non pas pour son degré supposé d'inféodation à un clan ou à un mouvement plutôt qu'un autre. Grande et louable nouveauté, c'est en effet trop souvent le défaut des hommes politiques de n'apprécier les journaux que selon leur docilité à l'égard du parti. Alors ça, c'est Gaston Gérard, enfin Gégé qui le dit. Et moi, j'ajouterais à titre personnel que je trouve quand même absolument ahurissant que on me traite, moi et mon journal, qui a toujours milité dans le combat national. Moi, j'ai commencé à militer, j'avais 12 ans, j'en ai 52. Ça fait 40 ans que je milite dans le combat national. J'ai commencé ma carrière de journaliste à Minute, j'ai toujours travaillé dans la presse nationaliste, j'ai toujours soutenu tous les mouvements nationaux, que ce soit le Front National, que ce soit le mouvement de Pierre Sidos, que ce soit Troisième Voie, quand Jean-Gilles Maliarakis était à la tête de Troisième Voie. Tous les mouvements nationalistes, je les ai appuyés, défendus, soutenus. Jamais personne m'a demandé de faire un acte d'allégeance. Jamais Jean-Marie Le Pen ne m'a demandé d'adhérer au Front National. Jamais. Même quand j'ai été travailler pendant 4 mois pour la mairie de Toulon, on ne m'a pas demandé d'adhérer au Front National. Donc je n'ai jamais fait un choix délibéré, déterminé, d'adhésion à un parti politique. J'ai toujours eu une attitude syncrétique, une attitude d'union entre les mouvements nationaux, et j'ai pas changé. Je continue à faire la même chose aujourd'hui avec le mouvement national. Et quand je publie dans mon journal aujourd'hui les positions de Bompard et de Durbecq qui sont radicalement antagonistes sur la question de la multiconfessionnalité et de la de l'identité nationale, je prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. J'expose. Moi, je crois que mes lecteurs et mes auditeurs sont suffisamment intelligents pour faire leur choix. En tout cas, ils sont pas plus bêtes que moi. Et je vois pas pourquoi je leur imposerais mon choix à moi. Donc ils choisissent ce qu'ils veulent. Je n'exclus personne. Simplement, ce que je vois, c'est que d'un côté, on m'a traité avec considération, amabilité et gentillesse, et de l'autre côté, on me traite de félon, de renégat et de salopard. Alors je suis désolé, moi j'ai pas été élevé, je ne suis pas comme les libéraux qui croient que ceux qui pensent différemment d'eux ont raison. Je suis pas le chien qui lèche la main, qui vous frappe, et je ne dis pas merci à Maminova. Alors, comme Maminova, elle a décidé de me faire la guerre, elle me fait la guerre, je lui dirai pas merci. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent merci quand on les traite de félon, de renégat, de salaud. J'en dis pas plus, mais enfin, comprenne qui pourra. Étais-je assez clair?
Ce fut.
Bien. Voilà. Et puis, je vais vous dire un truc. Tiens, je vais quand même le dire. Finalement, après 15 ans d'hésitation, je trouve que Maigret est vraiment quelqu'un de très sympathique. Je trouve qu'il a un joli petit sourire d'enfant qui est assez surprenant sur un visage d'énarque. Ou polytechnicien, ou les deux d'ailleurs.
Les deux.
Enfin, en tout cas, quelque chose que je ne serai jamais. Voilà ce que je voulais dire. On va parler de tout à fait autre chose. Pardon, monsieur Védelis, de vous avoir imposé cette tirade politique, parce que je sais que
cette
politiquement,
déclaration.
Vous êtes absolument transparent. De même madame Beljanski, qui est parmi nous ce soir, et je la remercie. Et vous n'êtes aussi bien pas venu parler de politique politicienne. Mais vous êtes venu parler de vraies politiques, des problèmes politiques de la santé.
Et puis de résistance aussi.
Et de résistance, et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes un résistant aussi. Enfin, plus que moi d'ailleurs, il faut bien le dire, parce que beaucoup plus engagé dans le vrai combat de la résistance, moi je me contente de piapiater, ce qui n'est pas difficile. Et, il y a quelque temps, dans une émission de Radio Courtoisie, quelqu'un a protesté contre votre présence répétée, non pas vous personnellement, mais en tant que représentant de l'association CIRIS, qui est l'association qui soutient, diffuse les travaux du professeur Beljanski. On verra tout à l'heure en deux mots avec madame Beljanski ce que c'est que ses travaux et qui était le professeur Beljanski. Et un médecin qui a envoyé un message a dit qu'il était scandalisé parce qu'on recevait des charlatans à mon émission. Enfin, il n'a pas dit à mon émission, mais il a dit dans une émission. Or, comme... sauf erreur de ma part, c'est la seule émission de Radio Courtoisie à laquelle vous ayez jamais participé, celle du mercredi. Il faut bien que j'en sois, qu'on arrive à l'idée que c'est de moi qu'il est question, ou de cette émission. Alors à cet auditeur, je voudrais apporter la réponse, alors vous allez voir à quel point je suis pas sectaire, la réponse d'un écrivain qui s'appelle André Gide. C'est vraiment pas ma tasse de thé, mais il y a quand même une phrase qu'il a dite et qui me paraît tellement résumée la situation que je ne peux pas résister au plaisir de la lire. Je l'ai prélevé non pas dans un livre d'André Gide que j'ai pas beaucoup lu, je dois dire, mais dans un livre tout à fait passionnant qui s'appelle Les radis de la colère, c'est curieux comme titre, de Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble. C'est un livre qui est paru aux éditions Louise Courteau, et c'est un livre qui raconte une histoire que vous auriez pu raconter, parce que c'est très exactement l'histoire de Beljanski, mais ça concerne quelqu'un d'autre que Beljanski, ça concerne un groupe dont on a décidé un jour que c'était une secte. Et on leur est tombé sur le poil dans des conditions exactement comme on a fait avec Beljanski, c'est-à-dire des dizaines de gendarmes, perquisitions, etc., etc., etc. Et Jean-Pierre Joseph, qui est leur avocat, il a découvert, lui c'était un brave démocrate qui croyait à la République, à la démocratie et tout, et il a découvert un univers qu'il n'imaginait pas, un univers totalement totalitaire, un univers de brutes galonnées, de brutes ministérielles, de salopards administratifs, qui ont utilisé tous les mensonges, des reportages truqués à la télévision, des fausses déclarations. C'est hallucinant cette histoire. Il faut lire ce livre, hein, Les radis de la colère, c'est prodigieux. Et donc, dans ce livre, Jean-Pierre Joseph parle de la question des vaccins, parce que ça a fait partie des accusations lancées contre ces gens dont on a prétendu qu'ils étaient une secte, alors que c'était tout simplement un groupe de polytechniciens, d'ailleurs d'ingénieurs et gens comme ça, qui avaient décidé d'essayer de trouver des solutions pour une agriculture non polluante. Bon. Et alors, il a consacré un article au vaccin, un chapitre de ce livre au vaccin, et, alors j'en viens maintenant à la citation d'André Gide, qui me paraît résumer la situation, « Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. » Moi, je pense que cette phrase, elle mériterait d'être gravée sur la pierre tombale du professeur Beljanski. Parce qu'elle résume totalement le sort ignoble qui a été fait à cet homme, qui voulait être un chercheur honnête, et un chercheur qui trouve. Apparemment, les chercheurs qui trouvent, on n'aime pas ça. On préfère les chercheurs qui cherchent. Alors, je me suis amusé à lire le chapitre sur les vaccins. Et puisqu'on parle de charlatanisme ou de prétendu charlatanisme, et après je donnerai la parole à Gérard Wendlich, je voudrais vous lire quelques petites phrases à propos des vaccins. Voilà. Dans le livre de Sylvie Simon qui s'appelle « La dictature médico-scientifique », on lit « Le taux de mortalité par la variole s'élevait à 10% aux Philippines lorsque les États-Unis prirent possession des îles en 1905 ». Entre 1905 et 1906, à la suite d'une campagne de vaccination massive, une épidémie fit mourir 25% de la population. Entre 18 et 20, alors que l'armée américaine venait d'obliger 95% de la population à se faire vacciner, une terrible épidémie de variole emporta cette fois 54% de la population. Alors on me dira, Sylvie Simon n'est pas médecin. Mais le docteur Robert Rendu, de la faculté de médecine de Lyon, lui il est médecin, et il écrivait dans la presse médicale en 49, entre 43 et 47, 5 millions en moins d'enfants ont été vaccinés contre le tétanos, soit plus de la moitié de la population âgée de 1 à 14 ans. Cette vaccination massive aurait dû entraîner une diminution considérable du nombre de décès. Or, les statistiques officielles montrent que le nombre de décès infantiles par tétanos n'a guère varié de 43 à 47, un décès en moyenne par département et par an. Le professeur Michel Ray, dans Impact Médecin Hebdo du 13 octobre 95, écrit « La protection conférée par la vaccination antidiphtérique dure moins longtemps que l'immunité naturelle et n'est plus que de 50% 10 ans après la vaccination, alors que 90% des adultes sont naturellement immunisés avant d'être vaccinés. Le point du 23 janvier 93. Les quelques 100 infirmières des hôpitaux de l'assistance publique de Paris qui ont été contaminées ces 5 dernières années par la tuberculose étaient toutes vaccinées. Jean Yvenot dans Le Monde, 2 février 87. Près de 200 des enfants que l'on croyait correctement vaccinés en Afrique de l'Ouest en 86 ont contracté la maladie. Certains sont morts. Les études épidémiologiques franco-américaines menées sur le terrain n'ont pas encore permis de comprendre les raisons exactes d'un tel phénomène. Dépêche AFP du 1er février 97. La quasi-totalité des cas de poliomyélite recensés aux États-Unis de 80 à 94 ont été causés par l'administration du vaccin oral atténué. The Lancet, qui est un des plus grands magazines médicaux du monde. 1er janvier 94, 54% des personnes atteintes par une toute récente poussée de poliomyélite en Namibie, en novembre 83, étaient toutes vaccinées dans les règles contre la poliomyélite. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, parce qu'il y en a, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 20 pages. C'est un livre formidable. Il y a 20 pages là-dessus. Et alors, finalement, cet avocat qui n'est pas un imbécile, parce qu'il y a quand même pas mal d'avocats qui ne sont pas des imbéciles, à la fin, il dit, mais enfin, on s'aperçoit que les vaccins sont inefficaces, voire au pire ils sont nocifs, et dans certains cas mortels. Pourquoi est-ce qu'on continue à imposer le vaccin ? Alors il écrit la chose suivante, il constate que le vaccin contre l'hépatite B, qui a été imposé en France, a été imposé par M. Douste-Blazy à la suite d'un contrat passé avec le laboratoire qui fabrique les vaccins, alors que l'on savait pertinemment. La preuve, c'est que c'est marqué sur le document qui est remis avec la boîte de vaccin que dans certains cas, ce vaccin peut provoquer des scléroses en plaques.
Mais tout le monde sait que M. Douste-Blazy est complètement impliqué dans l'industrie pharmaceutique.
Alors, ce vaccin, c'est le laboratoire qui a eu l'exclusivité de la fourniture des vaccins contre l'hépatite B, ou prétendument contre l'hépatite B, a gagné, d'après l'estimation que livre maître Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble, 1,5 milliard de francs actuels, 1,5 milliard de francs, 150 milliards de centimes, 150 000 millions de centimes, hein, ce qui veut dire
pour quel bilan
des sommes gigantesques. avec cette affaire. Et le bilan, c'est que, de toute façon, l'hépatite B n'a jamais autant sévi, et que beaucoup de gens qui ont été vaccinés se baladent maintenant avec une sclérose en plaques.
Voilà, il y avait pourquoi... une publication de M. Beljanski qui avait travaillé là-dessus et qui avait attiré l'attention.
Il le cite, Maître Joseph cite Beljanski là-dedans. Oui.
Et Sylvie Simon aussi dans son livre La dictature médico-scientifique.
Ce long préalable pour dire que... Il ne faut pas parler de charlatan, c'est trop facile. C'est une accusation, on connaît le système.
C'est un mot qu'on emploie quand on n'a pas de raison voilà. scientifique.
Et puis que ça permet de tuer socialement.
En principe, un débat scientifique doit se baser sur des faits et non pas sur des injures. Qui disait, l'injure est le dernier argument de celui qui a tort.
Ouais. Je ne sais pas qui le disait, mais c'est dommage, il mériterait qu'on ait retenu son nom.
Je retrouverai, parce que j'ai la citation quelque part à la visa.
Alors Gérard Wedlich, le point sur l'affaire Beljanski qui continue, rappelez en deux mots, ou peut-être on va demander à Monique Beljanski de rappeler de quoi il s'agit.
Mirko Beljanski est un garçon qui est né en Yougoslavie, qui est venu à l'âge de 20 ans en France, qui a fait toutes ses études supérieures en France, qui a choisi la France avec beaucoup de conviction, d'élan, beaucoup de confiance, qui était un passionné de recherche, un fou. Il y a des fous de Dieu, il y a des fous de recherche, et qui était extrêmement imaginatif. Et nous avons travaillé, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui pendant 46 ans. Nous avons travaillé pendant 30 ans à l'Institut Pasteur, et puis 10 ans à la faculté Châtenay-Malabry, et ensuite dans une structure privée que nous avons eue grâce à l'association COBRA, qui est ensuite devenue CIRIS. Mirko Beljanski a son acquis énormément de trouvailles scientifiques intéressantes, de recherches fondamentales, et il a pu montrer qu'il y avait des différences qui n'étaient pas celles qu'on croyait entre les gènes des cellules normales et les gènes des cellules cancéreuses. Et ayant trouvé ces différences, ça lui a permis de mettre au point un test de dépistage des molécules selon leur potentiel. C'est-à-dire que les cancérogènes vrais stimulent sélectivement la synthèse de l'ADN cancer. Et les molécules neutres n'ont aucun effet. Les molécules toxiques sont toxiques aussi bien pour la synthèse des ADN normaux et celles des ADN cancéreux. Et ça lui a permis de trouver dans la nature des molécules qui ont la propriété absolument symétrique et inverse des cancérogènes, c'est-à-dire d'inhiber sélectivement les ADN des cellules cancéreuses sans toucher aux ADN des cellules saines. C'est-à-dire un moyen, pour la première fois, de faire une espèce de chimiothérapie qui n'aurait aucun effet toxique puisqu'il n'y a aucun effet sur les cellules normales. Alors, ça c'est un des aspects de sa recherche. Il a également trouvé un produit qui permet de remonter l'immunité. Mais ce que je tiens à dire, c'est que toutes ces recherches ont été basées sur des faits scientifiques. C'était un chercheur fondamental. Il n'a jamais cherché pour trouver des produits. Il a fait des découvertes, je dirais, de façon ainsi. C'est une incidence d'une recherche pure. Et dès qu'il a commencé à avoir des produits qui pouvaient rendre service à la société, ses ennuis ont commencé. D'abord, ils ont commencé grâce à la vanité de son patron, qui était Jacques Monod, à l'Institut Pasteur, quand Mirko a trouvé l'existence d'une transcriptase réverse dans les bactéries. Thémine, un Américain, a eu le prix Nobel pour avoir trouvé cette enzyme chez les virus. Et quand Mirko a annoncé que cette enzyme existait également dans les bactéries, Monod lui a interdit de publier. Et
Mirko, parce que Monod disait que c'était pas possible.
Monod venait de publier dans son livre que c'était inconcevable, impossible et qu'on ne trouverait jamais. Donc il y a eu là un affrontement de vanité face à des faits scientifiques, et Monod lui a interdit de publier. Mirko est passé outre, il a publié quand même ses résultats, et de ce jour-là il est devenu un homme à abattre.
Les résultats qui avaient été repris en 89 par une équipe de chercheurs américaines, et qui ont repillé ni plus ni moins ce travail fait en 72 par Mirko Beljanski.
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce travail, grâce aux bons soins de l'Institut Pasteur, est complètement tombé dans l'oubli, alors que c'était très important sur le plan évolution, sur le plan fonctionnement des gènes. Ça pouvait apporter beaucoup à la recherche, mais ça a été volontairement étouffé par toute l'équipe pasteurienne. Et 17 ans plus tard, les Américains chantaient Cocorico, on vient de trouver que, etc. Et là, on les a obligés à reconnaître l'antériorité de Mirko. C'est-à-dire que pendant 17 ans, cette découverte qui est fondamentale et importante dans la conception des maladies, la conception de l'évolution, a été délibérément bloqué pour la vanité d'un homme, et je veux dire qu'ils sont jamais revenus en arrière. Mais moi, je voudrais encore ajouter une chose pour revenir sur vos propos contre l'arbitraire. Parce que je crois que l'histoire de Mirko Beljanski est un exemple incroyable de décision arbitraire. Quand les résultats de Mirko ont gêné, quelqu'un en haut lieu, j'aimerais bien savoir qui, mais ça c'est tenu secret, quand les résultats en haut lieu ont décidé qu'il fallait abattre Mirko Beljanski, la juge de Créteil lui a retiré son passeport, et quand Mirko lui a dit, pourquoi vous me retirez mon passeport? Parce qu'on ne veut pas que vous alliez à l'étranger faire ce qu'on ne veut pas que vous fassiez en France. Alors qu'une juge se permettent de dire à un chercheur qui était au niveau le plus haut de la hiérarchie du CNRS, on ne veut pas que vous fassiez ceci, on ne veut pas que vous fassiez cela, je trouve que c'est un exemple. Il y a un exemple, un précédent, c'était au moment du procès de Galilée, on lui a interdit de publier, on lui a interdit de parler, on a interdit aux éditeurs de republier ses anciens travaux, etc. Et c'est bon, il y a eu une telle pression, un tel manque de respect, une telle agression contre Mirko, qu'on sait la suite. Un mois et demi après, il a fait une leucémie dont il est décédé peu de temps après.
On va pas rentrer dans le détail de l'affaire Galilée, mais je voudrais quand même soulever l'exception que, dans le cas de Galilée, Galilée a bénéficié de la protection personnelle du souverain pontif, alors que, pour autant que je sache,
Beljanski
n'a jamais bénéficié.
Non seulement il
n'a
pas bénéficié d'aucune protection, même pas des scientifiques qui auraient pu. Parce qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. L'affaire Benveniste, même que je suis incapable de porter un jugement sur l'affaire Benveniste, mais de la façon dont il a été traîné dans la boue,
lâché,
même si c'était et lâché par tous ses chers confrères, est absolument... Et la façon dont on traite Sherman, pour qui je n'ai pas une sympathie particulière, n'est pas non plus admissible. Je trouve qu'il y a une lâcheté au niveau de la presse, il y a une lâcheté au niveau de la communauté scientifique.
Je crois que c'est ce que Gérard va nous expliquer, il va nous en donner les
raisons.
Mais
ça me faisait du bien, moi aussi.
Oui, vous avez bien raison.
Vous savez, cette avance de 17 ans en question, elle a, parce qu'à l'époque, en 89, donc les chercheurs avaient déclaré dans un article sur le journal Le Monde, grâce à cette découverte fondamentale, nous allons pouvoir dans 10 ans mettre au point des nouveaux médicaments sélectifs, non toxiques, etc.
Oui, mais ça, on dit ça tout
donc,
le temps.
Non, mais en 89, ils ont dit ça, cette équipe de chercheurs américaines. Et Mirko Beljanski, ayant en fait chronomètre en main, 17 ans d'avance, c'est ce qui explique qu'il avait déjà dans ses mains ces molécules. Et là, c'est tout le problème. Donc, des chercheurs, novateurs, trouveurs, dérangeurs, qui sont en fait des bienfaiteurs de l'humanité, qu'il faut reprendre en considération. Alors, on peut résumer ça en disant que des traitements non toxiques contre cancer, sida, maladies graves, auto-immunes existent. Et ça, c'est criminel de le cacher aux gens, parce que ces traitements agissent seuls ou en synergie d'action avec les traitements conventionnels, ils donnent d'excellents résultats, et plusieurs milliers de malades sont là aujourd'hui, qui ont utilisé donc ces produits au nom de leur liberté thérapeutique, et ils peuvent en témoigner. Pour moi, par exemple, Gérard Wedlich, président de l'association Siris, c'est un devoir de témoigner. Moi, je suis bien en face de vous, Serge, une réalité. Et aujourd'hui, j'ai 15 ans de recul par rapport à un sida déclaré. Qu'est-ce que j'ai pris comme traitement ? L'extrait de Pao Pereira du professeur Mirko Beljanski. Et cet extrait de Pao Pereira, c'est un antiviral extrêmement puissant qui, et donc efficace, ainsi que vous le voyez, ma forme devant vous, bon, qui est non toxique, puisque s'il avait été toxique, vu le nombre de gélules, ben, je serais mort depuis longtemps, et qui n'engendre pas de phénomène de résistance. C'est la résistance que l'on reproche actuellement, vous savez, à la trithérapie, et aux États-Unis, d'où je reviens, d'ailleurs, j'étais à un colloque là-bas médical, eh bien, les grandes associations de cinéastes se plaignent de tout ce phénomène de résistance qu'on étouffe un petit peu, plus ou moins, en France, malgré des articles qui sont parus, quand même, dans une certaine presse.
Ils sont franchement très inquiets aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Et vous voyez, ça c'est sur l'aspect du sida, mais par exemple, dans ce cas de témoignage, vous savez qu'on a 16 ans de recul pour des cancers extrêmement graves, comme par exemple des atteintes du pancréas. En 2 mois, vous êtes mort. Bah, écoutez, nous, on donne des noms. Jean Le Guen, hôpital Canfrou, en Bretagne. Je sais bien que ça agace. Vous savez que moi, je viens de sur la place publique et que je donne mon nom, que j'arrive avec des dossiers médicaux en béton qui font fuir tout le monde, y compris Cavada et tous les grands journalistes du système. Il faut que je vienne uniquement sur la radio, Radio Courtoisie, pour que vous m'accueillez, Serge, je vous en remercie, pour pouvoir m'exprimer. Mais, vous voyez, par exemple, on va prendre le cas de témoignage d'Henri Boiteux. Bon, Henri Boiteux, c'est quand même...
Il est venu à ce micro.
Oui, il est venu à ce micro. Et pour le rappeler, quand même, le nom de Boiteux résonne toujours à cause de son frère, Marcel, qui était PDG d'EDF et qui a été le président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur. Eh bien, Henri, qui a été donc directeur de recherche au CNRS, administrateur pendant 11 ans d'un institut de recherche sur le cancer à Villejuif, il déclare qu'il a été guéri d'un cancer de la prostate en utilisant les produits Beljanski en synergie avec les traitements conventionnels. Et qu'est-ce qu'il déclare? Eh bien, il déclare, quand j'entends les gens de l'ARC ou ceux de SIDAction qui ramassent de l'argent par millions en être à faire croire aux malades qu'il n'existe pas de médicaments fiables alors qu'il en existe un, pour le cancer comme pour le sida, qui permet de tenir longtemps, j'estime que c'est un scandale médical encore plus grand que celui du sang contaminé. C'est quand même Henri Boiteux qui déclare ça. C'est pas comme vous l'expression que vous prenez toujours, c'est pas un gogo, quoi. C'est quelqu'un de tout à fait sensé. Et là, j'ai voulu faire venir un témoin. Et donc, il est parti du côté du Mans.
Alors, il y aurait juste le temps de l'écouter. On peut écouter l'enregistrement.
On est quasiment certain que c'est un cancer, mais on va vous faire une biopsie. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital pour le faire, et la biopsie était bien cancéreuse. Alors, le chirurgien m'a dit, on va tout enlever, vous ne pourrez plus parler, etc., etc. Je n'étais pas tellement content de ça. Alors, je suis allé prendre des autres opinions, et je suis allé finalement à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui sont spécialisés pour les cancers. Là, ils ont dit, on peut plus vous opérer, parce que vous avez un cancer de la thyroïde anaplésique, ce qui est un cancer très grave, parce que c'est très très rapide. Et c'est descendu, la thyroïde, jusqu'au poumon, à côté du cœur, et les deux poumons ont été affectés, et puis toute la gorge, etc. Alors, ils m'ont dit, bon, écoutez, on va vous hospitaliser si vous voulez. C'est pas nécessaire parce que, malheureusement, vous êtes condamné. On va vous faire le traitement classique, chimio et radio, rayon. Mais, on le fait si vous le voulez. Nous, on pense, actuellement, ils ont dit, c'est une waste of time, une perte de temps. Et j'ai bien écouté, on peut toujours essayer, n'est-ce pas? Alors, voilà. Entre-temps, c'est une longue histoire. À travers mon chat, j'ai connu Monsieur Beljanski. Par l'intermédiaire de professeur Anker, qui est l'associé de professeur Strum, que vous avez entendu ce matin. Et je suis allé le voir pour mon chat. Et, parce que mon chat avait le FIV, justement. Et on m'avait dit qu'il connaissait des choses là-dessus. Il m'avait dit, bon, je vais vous donner l'adresse d'un vétérinaire qui s'occupe de ça. Mais il m'a dit, vous avez une drôle d'allure. Je dis, oui, peut-être. Il m'a dit, vous n'avez pas l'air bien. Mais je n'ai pas très bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Je dis, bien, j'ai un cancer. Ah, mais il faut que vous parlez aussi avec M. Beljanski de votre cas personnel, pas seulement de votre chat. Et puis c'est comme ça que ça s'est développé. Alors, j'ai commencé à prendre ces médicaments, mais j'avais des problèmes parce qu'on m'avait mis à l'hôpital. Et on m'avait dit, ces médicaments, faites très attention, à l'hôpital, ils vont vous les confisquer, et puis etc., etc. Et puis, on ne pouvait pas les obtenir en France. Il fallait les faire venir de l'étranger. Moi, je ne connaissais pas très bien comment les faire venir à cette époque. Alors, j'ai commencé avec ces médicaments. Je ne prenais pas la dose qu'il fallait, surtout pour le real build, avec le résultat que la chimio et les rayons étaient un traitement très lourd pour moi. Bon, alors les 3 semaines sont écoulées, j'étais toujours là. Après ça, un mois et demi. Ils ont voulu à l'hôpital mettre un tuyau ici pour que je puisse respirer, parce que j'avais du mal à respirer, et je mangeais plus, je ne buvais plus. J'avais perdu 35 kilos, à peu près. Et ils m'ont dit, c'est bizarre, vous savez, vous êtes toujours là. Ben oui, je voudrais que je le dise. Et éventuellement, ils m'ont dit, bon, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, et on va recontinuer le traitement dans un mois pour la chimio. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des médicaments Belzhansky dans les doses qu'il fallait. Et je commençais à me sentir de mieux en mieux. Mais voilà, je suis toujours là. Il y a deux ans de ça, 3 ans.
Bonne soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1 et au Mans sur 98,8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Ovenbruck. Émission diffusée en direct mercredi 22 septembre 1999 de 18h à 21h. En différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82. C'est ma raison, votre gloire est-il
Gérard Wedlich, le témoignage qu'on vient d'entendre avant l'interruption de la première émission, qui est ce personnage?
Ben, écoutez, c'est encore une fois pas un gogo, hein, loin de là, c'est monsieur David Tausen, qui habite 2 rue Paulbert, 93-400 Saint-Ouen, et dont le téléphone est 01 40 10 87 66. Voilà. Et c'est un monsieur qui est à la retraite, qui a travaillé sur les plateformes de pétrole et qui a découvert les traitements Belzhansky, comme vous l'avez pu entendre, par l'intermédiaire de son chat. Parce que ça marche très très bien sur le FIV, donc le sida du chat. Et vous savez qu'il y a un chat sur trois qui est concerné par ce fléau et les chats meurent. Et j'ai eu beaucoup de témoignages donc de propriétaires de chats, et ça marche aussi chez les chiennes, pour les cancers de tétine et des choses comme ça.
J'aime pas qu'on dise les propriétaires d'animaux. On n'est pas propriétaire d'un animal. On est un ami d'un animal, pas un propriétaire.
Excusez-moi.
Alors... On a vu tout à l'heure à propos du livre de, en parlant du livre de Maître Joseph et puis à propos de l'affaire Belzhansky, que en fait la plus grosse difficulté que vous avez, c'est de communiquer. Vous faites l'objet d'un véritable barrage des médias et vous avez l'habitude de dire que c'est une espèce d'omerta.
Oui, c'est d'ailleurs, on a parlé du complot, on a parlé de la cabale. On a développé tout ça dans nos revues, à la revue Dialogue, donc on donnera les coordonnées à la fin de l'émission. Mais actuellement, le mot juste, c'est le mot omerta, c'est-à-dire la loi du silence, c'est l'infiltration de la mafia dans toutes les administrations et qui fait une répression, c'est impressionnant. Moi chez moi, je vous rappelle, cherche que les gendarmes sont venus saisir les produits Belzhansky que j'avais choisis au nom de ma liberté thérapeutique sur ma table de nuit. C'est quelque chose d'impressionnant, j'ai cru que la Gestapo revenait, comme j'ai déjà dit. Mais là, on s'aperçoit qu'au nom de la raison d'État, tout est permis. Et l'apothéose figurera par écrit dans plusieurs documents officiels que je voudrais citer ici, trois extraits. Premièrement, la conclusion du procès verbal de synthèse en date du 7 août 97, rédigé par l'OPJ Ketzinger, chargé de l'exécution de la commission rogatoire numéro 215 sur 1194, qui représente le sommet du complot.
Passer les détails.
Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Il serait souhaitable que les dossiers médicaux saisis, ainsi que les documents relatifs à ces essais, les courriers des malades, les fichiers adhérents malades soient détruits. » C'est-à-dire, Serge, que cette suggestion du gendarme suppose qu'en cas de procès, la destruction des pièces à conviction qui prouvent l'efficacité des produits Belzhansky contre sida, certains cancers et maladies graves. Alors ensuite, contre nous, vous comprenez, on a eu, parce que vis-à-vis de faits scientifiques, on aurait dû avoir une contestation scientifique qui n'a jamais été apportée à ce jour. On a eu qui ? Eh bien le fisc. Alors là, les surprenantes observations de la Direction Générale des Impôts, dans le cadre d'une requête dont je vous fais grâce les références, devant la Cour administrative d'appel de Lyon, sous la signature de monsieur Parnaudot Masson pour le ministre et par délégation du directeur général de l'administration civile, qui est formulée en réponse à la pertinence de nos arguments qui sont développés par nos avocats dans une procédure tout à fait cruciale. Et qu'est-ce qu'il dit ce monsieur ? Il dit... J'estime que l'État ne peut pas être considéré comme la partie perdante et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'association.
Uniquement pour ça. L'État ne peut pas perdre.
Impressionnant. Ouais. Impressionnant, Serge. Et le troisième point...
D'ailleurs, vous m'avez dit hors micro tout à l'heure qu'on venait de vous dégréver
d'une somme très importante. Ouais. On vient de nous dégréver comme ça. On nous a taxés, puis maintenant on nous dégrève. Vous savez, c'est la pluie et le beau temps. Bon, mais nous, on ira jusqu'au bout de nos procédures, jusqu'à la Cour européenne, naturellement. Et le troisième point qui est... Alors là, je ne sais pas comment vous allez, vous, à Radio Courtoisie, entendre ce que je vais vous dire dans cette omerta, c'est l'attitude déshonorante pour la justice, et une preuve de plus que dans les dossiers qui sont classés sensibles, les juges ne sont pas indépendants, et qu'ils collaborent à l'instauration d'une nouvelle forme d'inquisition. Alors les magistrats de la troisième chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris ont rendu... Le 18 juin 99, 5 arrêts qui prennent en référence un arrêté ministériel inexistant. Je cite, « Ces produits Belzhansky avaient été interdits par arrêté du ministère de la Santé du 5 octobre 93. » Vous vous rendez compte, ça ? Et moi, ce que j'ai fait, je me suis adressé au journal officiel, j'ai demandé si cet arrêté existait, et j'ai une lettre, une correspondance officielle du journal officiel, qui me dit « Cet arrêté n'existe pas ».
Vous allez nous faire croire que les magistrats ne seraient pas sérieux ?
Écoutez, franchement, comment voulez-vous que je croie une chose pareille ?
La preuve que l'Omerta existe bien et que c'est contre cela qu'une petite association comme Syris est en train de se battre. Et que pour cela, eh bien, il nous faut l'aide naturellement du public.
Alors, ceux qui veulent vous... Parce qu'ils vous entendent souvent sur... souvent dans mon émission, parce que j'ai du respect pour la résistance que vous opposez au système. Et puis maintenant, j'ai de l'amitié pour vous parce qu'il y a un certain nombre...
Merci.
Un certain temps qu'on se connaît, mais ils ne vous connaissent pas. Et je voudrais qu'ils viennent vous voir. Vous serez à Paris prochainement.
Oui, je vais être prochainement à Paris.
Il faut venir voir un Sidéen de 15 ans, si j'ose dire. 15 ans de SIDA déclaré. Oui. Vous allez voir ce que ça peut donner.
D'ailleurs, peut-être Monsieur Boiteux viendra, s'il est par là, parce qu'il évolue. Vous savez, là, je lui ai téléphoné dernièrement, il est en Charente-Maritime. Monsieur Henri Boiteux est en train de faire du béton, à son âge.
Il faudrait peut-être voir aussi ce monsieur qui témoignait tout à l'heure. Ça serait bien, s'il est là, qu'on vienne voir un homme qui a été renvoyé chez lui.
Je pourrais le solliciter à l'occasion.
On peut rien faire pour vous.
Oui, je pourrais le solliciter à l'occasion de cette conférence pour qu'il vienne témoigner. Alors, nous serons... dans le cadre d'une conférence, d'une vidéoconférence débat, dans laquelle nous projetons, au début de cette conférence, la dernière interview de M. Beljanski, qui s'intitule « Au risque de la liberté », qui est un film qui résume vraiment tout le scandale et qui est scientifique.
Car Mirko Beljanski était interdit de parole.
Oui,
donc ce film lui a permis de s'exprimer une dernière fois avant de mourir.
C'est pourquoi il n'a jamais pu s'exprimer au micro de cette émission. Il était interdit par la justice.
Donc nous serons le samedi 2 octobre